Pages arrachées au discours de réception des prix Nobel de littérature, 1903-2010. 2002, Imre Kertész.
Imre Kertész.
Né à Budapest, Hongrie, en 1929.
Langue,
hongrois.
En 1944, à l'âge de 15 ans, il est déporté dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, puis à Buchenwald.
C'est l'expérience fondatrice de son œuvre littéraire.
Imre Kertész est aussi le traducteur d'auteurs de langue allemande.
Nietzsche, Hofmannsthal, Schnitzler, Freud, Joseph Roth, Wittgenstein et Canetti.
Eureka. Avant toute chose, je dois vous faire un aveu. Un aveu peut-être étrange, mais sincère. Depuis que je suis monté dans l'avion pour venir ici, à Stockholm, recevoir le prix Nobel qui m'a été décerné cette année, je sens dans mon dos le regard scrutateur d'un observateur impassible. Et en cet instant solennel qui me place au centre de l'attention générale, je m'identifie plutôt à ce témoin imperturbable qu'à l'écrivain soudain révélé au monde entier. Et j'espère seulement que le discours que je vais prononcer pour cette occasion m'aidera à mettre fin à cette dualité, à réunir ces deux personnes qui vivent en moi. Pour l'instant, moi-même, je ne comprends pas assez clairement l'aporie que je sens entre cette haute distinction et mon œuvre, ou plutôt ma vie. J'ai peut-être vécu trop longtemps dans des dictatures, dans un environnement intellectuel hostile et désespérément étranger, pour pouvoir prendre conscience de mon éventuelle valeur littéraire. La question ne valait tout simplement pas la peine d'être posée. De surcroît, on me faisait comprendre de toutes parts que le sujet qui occupait mes pensées, qui m'habitait, était dépassé et inintéressant. Voilà pourquoi j'ai toujours considéré l'écriture comme une affaire strictement privée, ce qui rejoignait d'ailleurs mes plus intimes convictions. Dire qu'il s'agit d'une affaire privée n'exclut nullement le sérieux, même si ce dernier semblait quelque peu ridicule dans un monde où seul le mensonge était pris au sérieux. Or, l'axiome philosophique définissait le monde comme réalité existant indépendamment de nous. Mais moi, en 1955, par un beau jour de printemps, j'ai compris d'un coup qu'il n'existait qu'une seule réalité et que cette réalité, c'était moi, ma vie. Ce cadeau fragile et d'une durée incertaine que des puissances étrangères et inconnues s'étaient appropriées, avaient nationalisé, déterminé et scellé. Et j'ai su que je devais la reprendre à ce monstrueux Moloch qu'on appelle l'histoire, car elle n'appartenait qu'à moi, et je devais en disposer en tant que tel. En tout cas, cela m'opposait radicalement à tout ce qui m'entourait, à cette réalité qui n'était peut-être pas objective, mais certainement indéniable. Je parle de la Hongrie communiste, du socialisme qui promettait un avenir radieux. Si le monde est une réalité objective qui existe indépendamment de nous, alors l'individu n'est qu'un objet, y compris pour lui-même, et l'histoire de sa vie n'est qu'une suite incohérente de hasards historiques qu'il peut certes contempler, mais qui ne le concerne pas. Il ne lui sert à rien de les ordonner en un ensemble cohérent, car son moi subjectif ne saurait assumer la responsabilité des éléments trop objectifs qui pourraient s'y trouver. Un an plus tard, en 1956, a éclaté la révolution hongroise. Pour un seul et bref instant, le pays est devenu subjectif. Mais les chars soviétiques ont bien vite rétabli l'objectivité. S'il vous semble que je fais de l'ironie, alors pensez, je vous prie, à ce que sont devenus la langue et les mots au cours du XXe siècle. Selon moi, il est vraisemblable que la plus importante, la plus bouleversante découverte des écrivains de notre temps est que la langue, telle que nous l'avons héritée d'une culture ancienne, est tout simplement incapable de représenter les processus réels, les concepts autrefois simples. Pensez à Kafka, pensez à Orwell, qui ont vu la langue ancienne fondre dans leurs mains, comme s'ils l'avaient mise au feu, pour ensuite en montrer les cendres où apparaissaient des images nouvelles et jusqu'alors inconnues. Mais je voudrais revenir à mon affaire strictement personnelle, c'est-à-dire à l'écriture. Il y a là quelques questions que tout homme dans ma situation ne se pose même pas. Jean-Paul Sartre, par exemple, a consacré tout un opuscule à la question de savoir pour qui on écrit. La question est intéressante, mais elle peut également être dangereuse. Et je suis en tout cas reconnaissant à la vie de n'avoir jamais eu à y réfléchir. Voyons en quoi consiste le danger. Par exemple, si on vise une classe sociale qu'on voudrait non seulement divertir, mais aussi influencer, il faut avant tout prendre en considération son propre style et se demander s'il est adapté à l'objectif qu'on s'est fixé. L'écrivain est bientôt assailli de doutes. Le problème est qu'il est dès lors occupé à s'observer lui-même. De plus, comment pourrait-il savoir quelles sont les vraies attentes de son public, ce qui lui plaît vraiment? Il ne peut tout de même pas interroger chaque individu. D'ailleurs, cela ne servirait à rien. En définitive, son seul point de départ possible est l'idée qu'il a lui-même de son public, les exigences que lui-même lui attribue, l'effet qu'aura sur lui-même l'influence qu'il souhaite exercer. Pour qui donc l'écrivain écrit-il? La réponse est évidente. Pour lui-même. Moi, au moins, je peux dire que j'étais arrivé à cette réponse sans aucun détour. Il est vrai que mon cas était plus simple. Je n'avais pas de public et ne voulais influencer personne. Je n'avais pas de but précis quand j'ai commencé à écrire, et ce que j'écrivais ne s'adressait à personne. Si mon écriture n'avait pas d'objectif clairement exprimable, elle consistait néanmoins à garder une fidélité formelle et linguistique à mon sujet, rien d'autre. Il importait de le préciser à cette époque ridicule mais triste où la littérature dite engagée était dirigée par l'État. Il m'aurait en revanche été plus difficile de répondre à la question posée à juste titre et non sans un certain scepticisme, de savoir pourquoi on écrit. À nouveau, j'ai eu de la chance, car je n'ai jamais eu l'occasion de trancher cette question. J'ai d'ailleurs relaté fidèlement cet événement dans mon roman intitulé « Le refus ». Je me trouvais dans le couloir désert d'un immeuble administratif et j'entendais des pas résonner dans un couloir perpendiculaire. C'est tout. J'ai été pris d'une sorte d'agitation particulière. Les pas venaient dans ma direction. C'était ceux d'une seule personne que je ne voyais pas. Et brusquement, j'ai eu l'impression d'en entendre marcher des centaines de milliers, une véritable colonne, dont les pas retentissaient. Et alors j'ai saisi la force d'attraction de ce défilé de ces pas. Là, dans ce couloir, j'ai compris en une seule seconde l'ivresse de l'abandon de soi, le plaisir vertigineux de se fondre dans la masse, ce que Nietzsche, dans un autre contexte certes mais avec pertinence, nomme l'extase dionysiaque. Une force quasi physique me poussait et m'attirait dans les rangs. Je sentais que je devais m'appuyer et m'aplatir contre le mur pour ne pas céder à cette attraction. Je rends compte de cet instant intense comme je l'ai vécu. La source d'où il avait jailli, telle une vision, semblait se trouver en dehors de moi et non en moi-même. Tout artiste connaît de tels instants. Autrefois, on les appelait des inspirations soudaines. Mais je ne mettrai pas ce que j'ai vécu au nombre des expériences artistiques. Je parlerai plutôt d'une prise de conscience existentielle, laquelle ne m'a pas donné la maîtrise de mon art, car j'ai dû encore longtemps chercher les outils, mais celle de ma vie, alors que je l'avais presque perdue. Il y était question de la solitude, d'une vie plus difficile, de ce dont j'ai parlé au début. Il s'agissait de sortir du cortège enivrant, de l'histoire qui dépouille l'homme de sa personnalité et de son destin. J'avais constaté avec effroi que, 10 ans après être revenu des camps nazis, et avec pour ainsi dire un pied dans la fascination de la terreur stalinienne, il ne me restait plus de tout cela qu'une vague impression et quelques anecdotes, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Il est évident que ces instants visionnaires ont une longue histoire, que Sigmund Freud déduirait peut-être du refoulement de quelques traumatismes. Qui sait, peut-être aurait-il raison. Or, moi aussi, je penche plutôt pour la rationalité et suis loin de tout mysticisme ou enthousiasme. Quand je parle de vision, j'entends une réalité qui a pris la forme du surnaturel, à savoir la révélation soudaine, on pourrait dire révolutionnaire, d'une idée qui mûrissait en moi, une chose qu'exprime l'antique exclamation « Eureka, j'ai trouvé ». Certes, mais quoi ? J'ai dit un jour que pour moi, ce qu'on appelle le socialisme avait la même signification qu'eut pour Marcel Proust la Madeleine qui, trempée dans le thé, avait ressuscité en lui les saveurs du temps passé. Après la défaite de la Révolution de 1956, j'ai décidé, essentiellement pour des raisons linguistiques, de rester en Hongrie. Ainsi, j'ai pu observer, non plus en tant qu'enfant, mais avec ma tête d'adulte, le fonctionnement d'une dictature. J'ai vu comment un peuple est amené à nier ses idéaux. J'ai vu les débuts de l'adaptation, les gestes prudents. J'ai compris que l'espoir était un instrument du mal et que l'impératif catégorique de Kant, l'éthique, n'était que les vallées dociles de la subsistance. Peut-on imaginer liberté plus grande que celle dont jouit un écrivain dans une dictature relativement limitée, pour ainsi dire fatiguée, voire décadente? Dans les années 60, la dictature hongroise était arrivée à un point de consolidation qu'on peut appeler consensus social et auquel le monde occidental donnerait plus tard, avec condescendance, le petit nom de communisme de goulash. Après l'animosité du début, le communisme hongrois était devenu d'un coup le communisme préféré de l'Occident. Dans le bourbier de ce consensus, il ne restait qu'une alternative, ou bien renoncer définitivement au combat, ou bien chercher les chemins tortueux de la liberté intérieure. Si j'évalue en toute sincérité ma situation à cette époque-là, je ne sais pas si en Occident, dans une société libre, j'aurais été capable d'écrire le même roman que celui qui est connu aujourd'hui sous le titre d'Être sans destin et qui a obtenu la plus haute distinction de l'Académie suédoise. Non, car j'aurais certainement eu d'autres préoccupations. Je n'aurais certes pas renoncé à chercher la vérité, mais c'eût été peut-être une autre vérité. Dans le marché libre des livres et des esprits, je me serais peut-être efforcé de trouver une forme romanesque plus brillante. J'aurais pu, par exemple, fragmenter la narration pour ne raconter que les moments frappants. Sauf que dans les camps de concentration, mon héros ne vit pas son propre temps, puisqu'il est dépossédé de son temps, de sa langue, de sa personnalité. Il n'a pas de mémoire, il est dans l'instant. Si bien que le pauvre doit dépérir dans le piège morne de la linéarité et ne peut se libérer des détails pénibles. Au lieu d'une succession spectaculaire de grands moments tragiques, il doit vivre le tout, ce qui est pesant et offre peu de variété. Comme la vie. Mais cela m'a permis de tirer des enseignements étonnants. La linéarité exige que chaque situation s'accomplisse intégralement. Elle m'a interdit, par exemple, de sauter élégamment une vingtaine de minutes pour la seule raison que ces 20 minutes baient devant moi tel un gouffre noir, inconnu et effrayant comme une fosse commune. Je parle de ces 20 minutes qui se sont écoulées sur le quai du camp d'extermination de Birkenau avant que les personnes descendues des wagons ne se retrouvent devant l'officier qui faisait la sélection. Moi-même, j'avais un souvenir approximatif de ces 20 minutes, mais le roman m'interdisait de me fier à mes réminiscences. Presque tous les témoignages, confessions et souvenirs de survivants que j'avais lus étaient d'accord sur le fait que tout s'était déroulé très vite et dans la plus grande confusion. Les portes des wagons s'ouvraient violemment au milieu des cris et des aboiements. Les hommes étaient séparés des femmes dans une cohue démentielle. Ils se retrouvaient devant un officier qui leur jetait un rapide coup d'œil, montrait quelque chose en tendant le bras, puis ils se retrouvaient en tenue de prisonnier. Moi, j'avais un autre souvenir de ces 20 minutes. En cherchant des sources authentiques, j'ai commencé par lire Tadeusz Borowski, ses récits limpides d'une cruauté masochiste, dont celui qui s'intitule « Au gaz, messieurs, dames ». Ensuite, j'ai eu entre les mains une série de photos qu'un SS avait prises sur le quai de Birkenau lors de l'arrivée des convois et que les soldats américains ont retrouvées à Dachau, dans l'ancienne caserne des SS. J'ai été sidéré par ces photos. Beaux visages souriants de femmes, de jeunes hommes au regard intelligent, pleins de bonne volonté, prêts à coopérer. Alors j'ai compris comment et pourquoi ces 20 minutes humiliantes d'inaction et d'impuissance s'étaient estompées dans leur mémoire. Et quand, en pensant que tout cela s'était répété jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, durant de longues années, j'ai pu entrevoir la technique de l'horreur, j'ai compris comment on pouvait retourner la nature humaine contre la vie humaine. J'avançais ainsi, pas à pas, sur la voie linéaire des découvertes. C'était, si on veut, ma méthode heuristique. J'ai vite compris que les questions de savoir pour qui et pourquoi j'écrivais ne m'intéressaient pas. Une seule question me travaillait. Qu'avais-je encore en commun avec la littérature? Car il était clair qu'une ligne infranchissable me séparait de la littérature et de ses idéaux, de son esprit, et cette ligne, comme tant d'autres choses, s'appelle Auschwitz. Quand on écrit sur Auschwitz, il faut savoir que, du moins dans un certain sens, Auschwitz a mis la littérature en suspens. À propos d'Auschwitz, on ne peut écrire qu'un roman noir, ou, sauf votre respect, un roman feuilleton dont l'action commence à Auschwitz et dure jusqu'à nos jours. Je veux dire par là qu'il ne s'est rien passé depuis Auschwitz qui ait annulé Auschwitz, qui ait réfuté Auschwitz. Dans mes écrits, l'Holocauste n'a jamais pu apparaître au passé. On dit à mon propos, pour m'en féliciter ou pour me le reprocher, que je suis l'écrivain d'un seul thème, l'Holocauste. Je ne trouve rien à y redire. Pourquoi n'accepterais-je pas, avec quelques réserves, la place qui m'a été attribuée sur l'étagère idoine des bibliothèques? En effet, quel écrivain aujourd'hui n'est pas un écrivain de l'Holocauste? Je veux dire qu'il n'est pas nécessaire de choisir expressément l'Holocauste comme sujet pour remarquer la dissonance qui règne depuis des décennies dans l'art contemporain en Europe. De plus, il n'y a, à ma connaissance, pas d'art valable ou authentique où on ne sente pas la cassure qu'on éprouve en regardant le monde après une nuit de cauchemar, brisé et perplexe. Je n'ai jamais eu la tentation de considérer les questions relatives à l'Holocauste comme un conflit inextricable entre les Allemands et les Juifs. Je n'ai jamais cru que c'était l'un des chapitres du martyr juif qui succède logiquement aux épreuves précédentes. Je n'y ai jamais vu un déraillement soudain de l'histoire, un pogrom d'une ampleur plus importante que les autres, ou encore les conditions de la fondation d'un État juif. Dans l'Holocauste, j'ai découvert la condition humaine, le terminus d'une grande aventure où les Européens sont arrivés au bout de 2000 ans de culture et de morale. À présent, il faut réfléchir aux moyens d'aller plus loin. Le problème d'Auschwitz n'est pas de savoir s'il faut tirer un trait dessus ou non. Si nous devons en garder la mémoire, ou plutôt le jeter dans le tiroir approprié de l'histoire, s'il faut ériger des monuments aux millions de victimes, et quel doit être ce monument? Le véritable problème d'Auschwitz est qu'il a eu lieu. Et avec la meilleure ou la plus méchante volonté du monde, nous ne pouvons rien y changer. En parlant de scandale, le poète hongrois catholique János Pilinszky a sans doute trouvé la meilleure dénomination de ce pénible état de fait. Et par là, il voulait à l'évidence dire qu'Auschwitz a eu lieu dans la culture chrétienne et constitue ainsi pour un esprit métaphysique une plaie ouverte. D'anciennes prophéties disent que Dieu est mort. Il ne fait aucun doute qu'après Auschwitz, nous sommes restés livrés à nous-mêmes. Il nous a fallu créer nos valeurs, jour après jour, par un travail éthique opiniâtre, mais invisible, qui finira par produire les valeurs qui donneront peut-être naissance à la nouvelle culture européenne. Que l'Académie suédoise ait jugé bon de distinguer précisément mon œuvre prouve à mes yeux que l'Europe éprouve à nouveau le besoin que les survivants d'Auschwitz et de l'Holocauste lui rappellent l'expérience qu'ils ont été obligés d'acquérir. À mes yeux, permettez-moi de le dire, c'est une marque de courage, voire d'une certaine détermination, car on a souhaité me voir venir ici tout en se doutant de ce que j'allais dire. Mais ce qui a été révélé à travers la solution finale et l'univers concentrationnaire ne peut pas prêter à confusion. Et la seule possibilité de survivre, de conserver des forces créatrices, est de découvrir ce point zéro. Pourquoi cette lucidité ne serait-elle pas fertile? Au fond des grandes découvertes, même si elles se fondent sur des tragédies extrêmes, réside toujours la plus admirable valeur européenne, à savoir le frémissement de la liberté qui confère à notre vie une certaine plus-value, une certaine richesse, en nous faisant prendre conscience de la réalité de notre existence et de notre responsabilité envers celle-ci.
És az érte való felelősségünkre.
C'était Pages arrachées au discours de réception des prix Nobel de littérature 1903-2010. 2002,
Imre Kertész. Extrait.
Texte dit par Pierre-Étienne Eman.
Traduction, Natalia et Charles Zaremba.
Choix des textes et présentation par Egla Lerera.
Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière.
Équipe de réalisation, Anil Bosselet, Clémence Gross, Bernard Laniel, Étienne Vallès.
Les discours de réception des prix Nobel de littérature sont parus chez Flammarion,
en coédition avec France Culture.